Voyage au bout du monde. Une évasion exotique animée par Isabelle Rupin.
Nous partons aujourd'hui sur la route des Amériques. Quand on dit des Amériques, c'est parce qu'on va partir du point le plus au sud, Ushuaia, en Argentine, pour remonter tranquillement à travers la cordillère des Andes, l'Amérique centrale, et puis un petit peu loin quand même vers l'Amérique du Nord. Ce voyage, c'est Julien Defourny qui nous le propose grâce aux conférences Altaïr. Julien Defourny, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs déjà, dire qui vous êtes ?
Donc, je m'appelle Julien Defourny. Je suis plutôt un gars qui touche à tout. Dans les étiquettes qu'on me colle, je suis photographe, réalisateur, etc., etc. Mais je suis avant tout une personne, je pense, qui suit beaucoup son cœur, qui a toujours écouté et qui a su suivre, en fait, l'enfant intérieur. Et ce voyage est né de cet enfant intérieur parce que déjà plus jeune, j'étais très connecté à la nature. Je chassais les insectes, les papillons, j'avais des collections. Et puis à l'adolescence, ça s'est un peu perdu avec tous les cadres sociétaux qu'on rencontre à l'école, etc. Et puis j'ai su vraiment me reconnecter à moi avec un premier voyage en Bolivie où j'ai été faire une thèse sur l'apiculture et où j'ai passé énormément de temps avec les paysans boliviens. Ce qui m'a beaucoup inspiré chez eux, c'est la sobriété qu'ils dégageaient à travers leur passion qui était de faire du miel. Et l'Amérique latine m'a directement appelé. Notamment aussi parce que je regardais énormément de documentaires très jeunes sur cette grande forêt amazonienne et elle se situe en Amérique du Sud. Donc voilà, pour moi, le choix de l'Amérique était évident et j'avais aussi l'envie d'apporter quelque chose durant ce voyage et c'était mon inquiétude par rapport au changement climatique qui m'a poussé à vouloir construire un film. Alors ce film, finalement, il témoigne pas trop des problèmes liés au changement climatique, mais il témoigne en fait de toutes ces rencontres que j'ai faites sur la route, parce qu'évidemment, ma pensée a changé au cours du voyage, donc ça m'intéressait plus de relater tout ça. Et je suis parti alors sur cette grande aventure. À la base, j'étais parti pour 2 années, et au final, ce sont 4 années, 50 000 km sans moteur, à la rencontre du monde et du vivant.
C'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Pourquoi sans moteur ?
Parce que déjà j'avais ce goût de l'effort et puis parce que je pense que le sans moteur permet de se réapproprier le temps. On est dans une société aujourd'hui qui court beaucoup trop vite et pour moi cette course n'a pas vraiment un sens profond à notre existence ni à notre essence d'être humain. Et donc le sans moteur pour moi c'est déjà se réapproprier le temps. Et puis il y a aussi quelque chose de vulnérable. Le fait d'être à pied, à vélo, en kayak, je veux dire qu'on n'a pas une... On n'a pas quelque chose de métallique comme une voiture qui nous protège de l'extérieur. Et donc, ce qui fait que ça devient un objet social, le vélo, et ça crée des liens, ça tisse des liens. Les gens qu'on va rencontrer sur la route vont s'intéresser, tiens, d'où vient-il, où va-t-il ? Et ça peut terminer, on passe une soirée chez cette famille ou plus. Et voilà, pour moi, le sans moteur, ça permet aussi d'être un géographe. Ça permet de s'imprégner vraiment de chaque mètre qu'on parcourt et de se dire « Ah oui, ça a été conçu comme ça ». Et on devient un peu un expert naturaliste, en fait. On observe vraiment avec détail tout ce qu'on voit et on a le temps de s'arrêter et de voir plus dans le détail.
C'est bien pour ça que ça vous a pris 4 ans au lieu de 2, d'ailleurs, ce voyage. Donc alors, vous commencez par Ushuaia. Donc là, on imagine effectivement des paysages fabuleux.
Oui, la Patagonie, c'est une terre qui est désolée, donc c'est très inhabité. Il y a beaucoup de montagnes, de glaciers. On a fait une expédition en kayak packraft avec mon ami là-bas. Et on était aussi dans des contrées très isolées. C'était très, très sauvage et intéressant. Et le défi en Patagonie, c'était le vent, parce que nous, on démarrait du sud. Donc je suis parti avec un ami pendant 1 an et demi, on a un voyage ensemble, puis 2 ans et demi seul pour que les auditeurs situent un peu la chose. Et donc on était parti ensemble et le défi de la Patagonie c'était vraiment le vent qui venait toujours du nord vers le sud. Et donc on avait des vents à plus de 100 km/h, donc c'était un sacré défi dès le début. Et ça nous a appris une chose, c'est ralentissez et réfléchissez au lieu d'être à fond comme vous avez l'habitude d'être. Et donc on a réfléchi et on a commencé à faire des étapes de nuit. Donc on dormait la journée parce que la nuit le vent s'arrêtait et on pouvait pédaler. Alors c'était absolument magnifique parce que la nuit on avait droit à des ciels étoilés, plus de trafic sur les routes et de voir des coyotes et plein d'animaux qui ne vivent que la nuit. Donc c'était des moments fabuleux et sans vent.
Mais c'est vrai qu'effectivement c'est inhabituel. Et c'est un petit peu la leçon aussi, c'est peut-être aussi s'adapter finalement au terrain.
Oui, c'est ça.
Au terrain, au sens large.
Je me rappelle à ce moment-là, moi j'étais quelqu'un de très agité mentalement et j'avais besoin de beaucoup plus contrôler qu'aujourd'hui. Et donc je voulais absolument avancer, mais la nature me disait non. Et c'est moi qui vais décider à ta place. Donc dès le début, c'était une expérience psychologique très intéressante. Et voilà, oui, ça permet d'écouter en fait, d'être à l'écoute de ce que nous dit la Terre.
Alors, Julien de Fourny, je compte sur vous pour à chaque fois que l'on va progresser, pour que vous m'arrêtiez s'il y a des anecdotes particulières à raconter. Mais sinon, on va remonter un petit peu, là, le temps. Donc, on arrive vers la cordillère des Andes, un terrain un petit peu hostile aussi, entre guillemets, enfin, avec lequel il faut composer, puisque le relief n'est pas simple.
Oui. Alors, pour moi, sur la Terre, rien n'est hostile. Ça dépend de la façon de voir les choses.
Alors, on va dire plus aride. Entraînant ou compliqué?
Parce que quand la passion te pousse, en fait, il n'y a rien qui est compliqué dans la vie. Je pense que la vie, elle est compliquée justement quand tu n'es pas aligné avec ce que tu fais. Donc, les obstacles, c'est normal dans la vie. Et les Andes, d'ailleurs, c'est une belle métaphore à l'aventure et à la vie, je dirais. C'est que quand il y a la montée, c'est le moment difficile. Quand tu arrives au-dessus, c'est le calme. Et quand c'est la descente, c'est l'euphorie. Mais l'aventure et la passion de l'aventure, ça t'apprend une chose, c'est que l'euphorie, elle peut être aussi dans la montée. Et donc au début, peut-être, c'est dur et tout, mais à la fin, tu t'habitues à ça et être en méditation avec toi-même, parce que des montées de 100 km dans les Andes, voilà, ça devient un mouvement méditatif, en fait, une répétition pour gravir cette montagne jusqu'à 4, 5, 6000 mètres d'altitude. Et voilà, c'est, encore une fois, ça permet aussi une introspection sur toi-même, ces moments. Et il y a plein de moments qui ressortent, que ce soit avec ta famille, avec tes amis. Et c'est ça qui est intéressant dans ce voyage, c'est pas que voir des paysages, mais c'est que la lenteur et ce mouvement de répétition t'emmènent à des états d'introspection pour moi. Et donc les Andes, c'était quelque chose de très plaisant, très très plaisant, parce que c'était dur, et à la fois, quand t'arrives au-dessus de ces pics, et que tu commences une descente de 40, 60, voire 100 km, c'était la plus longue, et ben là, c'est juste magique. Tu te laisses glisser et tu vois les écosystèmes changer une rapidité parce que l'altitude baisse très rapidement et donc les écosystèmes varient aussi avec cette altitude. Et c'est juste magnifique.
Là, on a beaucoup parlé de paysages, hein, Julien de Fourny. Mais donc, vous avez rencontré des autochtones aussi, selon le terme que j'aime bien, des habitants du monde.
Oui, c'était l'essence du voyage. Je pense que c'était la rencontre avec l'humain qui a été le moteur complètement de ce voyage. C'est lui qui permettait, dans les moments difficiles, à continuer, à aller voir ce qu'il y a après la montagne, parce que c'était souvent des moments de joie partagée. D'ailleurs, en 4 années de voyage, j'ai reçu aucune attaque à mon égard. Donc, on a l'impression des fois que le monde, il est négatif parce que les médias veulent nous montrer un monde négatif. Mais la réalité de ce monde, c'est quand tu prends ton vélo, que tu vas voir ce qu'il est, tu te rends compte que le monde n'est pas du tout hostile ni agressif. Et donc voilà, j'ai eu zéro attaque à mon égard et je me suis même dit, tiens, si c'était arrivé comme à certains voyageurs, ils sont par exemple fait dépouiller une ou deux fois. Mais qu'est-ce que ça représente sur le nombre de rencontres positives qu'on a fait? Et c'est là aussi où il faut prendre en compte que parfois l'esprit humain se cible juste sur le négatif. Et on oublie tout le positif à côté de ce négatif, qui est des fois microscopique. Mais ça, c'est une faculté du cerveau à enregistrer juste ce qui est négatif. Et donc non, le monde pour moi est magnifique. Les gens ont tous quelque chose de bon en eux, mais il faut le développer.
Et parfois, il faut leur donner la possibilité de le mettre en œuvre.
C'est bien que vous rebondissiez sur ça, parce que ça me rappelle une histoire au Venezuela où j'ai vécu dans des quartiers ultra défavorisés, voire violents, armés. Et j'étais au milieu de ces hommes entourés d'armes constamment. J'étais pas à la recherche de ça. Ça s'est vraiment fait naturellement que j'atterrisse dans ce quartier qu'on appelle une favelas. Et ces hommes, en fait, qui étaient constamment plongés dans la violence depuis leur enfance et qui étaient autour de moi armés, ne m'ont jamais donné une sensation de peur ou à mon égard, en tout cas. Et donc, j'étais là pour les écouter. On était comme des frères, vraiment. Et ce que j'ai compris de l'humanité aussi, c'est que parfois, on juge beaucoup trop vite l'autre, sans savoir. on est tous conditionnés aussi. Ces gens qui sont dans des favelas au Venezuela ou au Brésil et qui ont grandi dans la violence par un manque d'amour, tout ce qu'ils recherchent en fait via la violence et les meurtres, c'est d'être reconnus et d'avoir de l'amour. Et je suis sûr que si on plonge ces personnes dans un autre contexte, comme vous venez de le dire, dans un environnement plus sain, où c'est comme une graine, quand on la plante, il faut qu'elle soit dans une bonne terre pour que ça donne une bonne plante. Eh bien, si on le met dans une bonne terre, je suis sûr qu'on peut voir chez eux ce que j'ai vu à ce moment-là en partageant ces jours-là avec eux.
Oui, parce qu'en plus, Julien de Fournier, quand vous êtes allé au Venezuela, c'était en pleine guerre civile. Donc, effectivement, l'agressivité pouvait être exacerbée.
Les gens avaient faim, donc il y avait beaucoup de braquages de camions, de vivres. C'était vraiment de la survie, en fait. Et puis le peuple était révolté contre le président qui maintenait sa connerie jusqu'au bout, quoi. Et qui la maintient toujours, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ils sont passés au dollar, donc ça aurait été plus confortable. Mais il faut savoir que chaque famille vénézuélienne a un membre de sa famille qui travaille à l'extérieur pour gagner des dollars, quoi. Donc le pays est quand même dans un chaos profond. Je me rappelle plus votre première...
C'était le fait qu'effectivement, les personnes que vous avez rencontrées étaient encore plus dans une situation compliquée.
Ah, oui, voilà, c'était une situation compliquée, mais à la fois dans l'entraide, beaucoup d'entraide au Venezuela, justement par cette situation compliquée. Donc les gens, je pense qu'une fois qu'il y a du désespoir, et moi je l'ai vu même en Belgique avec les inondations d'il y a une année, les gens commencent à s'entraîner quand il y a du désespoir comme ça.
C'est ça qui est beau, effectivement, de dire que dans l'adversité, on peut faire front ensemble,
oui.
Et pas les uns contre les autres.
Ah oui, c'est ça. Et...
parce que ça pourrait être le chacun pour soi aussi. Hein.
Exactement. Et ça, justement, je pense que c'est l'illusion un peu de notre société actuelle, c'est de penser qu'on est des individus à part entière, alors qu'on est tous unis et liés. Et pour moi, le changement climatique ne pourra jamais être... justement, parce que c'était quand même une idée avec laquelle je suis parti. Hein. Donc, on parle du changement climatique, de la COP21, mais tant qu'on restera dans un système capitaliste qui extrait de la matière pour produire des richesses, on ne pourra pas renverser le changement climatique. Pour renverser le changement climatique, il va falloir réapprendre déjà le mot collectivité. Et c'est dans la collectivité... et comprendre qu'en fait, on est tous une chose, qu'on arrivera à renverser cette situation. Sinon, on devra aller jusqu'au bout et prendre des leçons, quoi. Et c'est tout.
Alors, c'est une belle leçon que vous nous donnez, Julien de Fournier. Là, on est passé au Venezuela. Peut-être qu'on va redescendre un petit peu pour suivre votre itinéraire. Donc, on a parlé de la cordillère des Andes. On va assez rapidement sur ces 50 000 kilomètres que vous avez parcourus. On s'arrête un petit peu au Brésil, en Amazonie.
Donc l'Amazonie, ça recouvre plusieurs pays, alors je crois que c'est 7 ou 9, je ne sais plus, j'ai plus le compte exact, mais bref. Et en Amazonie, je me suis lié d'amitié avec une communauté qui s'appelle les Chouar-Maïkwans, dans laquelle je suis retourné cette année durant 3 mois. Et en fait, ma rencontre avec les Chouars, elle a été aussi, c'est quelque chose qui n'était pas planifié. Donc j'ai rencontré une personne dans un village qui m'a conduit à eux, pour réaliser un documentaire sur leur situation, c'est-à-dire l'invasion de la mine dans le territoire du Condor, qui est basé où sont les Chouars, Maïkwans. Et en fait, suite à ce reportage, au début d'ailleurs, la relation n'était pas du tout facile avec eux, eh bien, on est devenus très proches et très amis, comme une famille en fait. Et j'ai décidé de créer une association qui, aujourd'hui, protège les droits de ce peuple. Et on a divers projets, notamment l'éducation autonome. On a des projets d'immersion interculturelle. Donc, j'organise des voyages chaque année maintenant pour que des Occidentaux puissent rencontrer ce peuple et échanger. Et tous ces projets contribuent à la défense du territoire, à payer des professeurs pour qu'ils puissent venir enseigner la culture ancestrale qui était quand même perdue dans le passé, etc. Et donc voilà, l'Amazonie, ça m'a fort lié, fort touché déjà avec ce peuple. Alors ça commençait très tôt, parce que c'était en Équateur, j'avais pas encore fait la transamazonienne, et maintenant je peux venir à cette transamazonienne. Donc voilà, cette rencontre, elle m'a bouleversé déjà pour commencer. Ensuite, j'étais toujours avec mes amis et on s'est engagé sur le fleuve Napo, qui est un affluent de l'Amazonie. Et là, on a acheté une pirogue et on a descendu environ 600 km sur cette pirogue. On avait mis les vélos dans la pirogue et on est parti comme ça, évidemment sans moteur, hein, à la rencontre aussi des peuples. C'était un voyage fantastique. Il s'est passé 2000 choses aussi. Et puis, je me suis lancé, après ce voyage, seul sur la transamazonienne. Et c'est tout le monde, quand je suis arrivé au Brésil, seul, à Manaus, qui est la plus grande ville de l'Amazonie, me disait, mais t'es complètement fou de traverser la jungle tout seul, le jaguar.
Ça paraît un petit peu inconscient.
C'est peut-être inconscient quand on ne connaît pas la nature et quand on laisse parler ses peurs. Mais en soi, le jaguar, pour moi, n'est pas quelque chose d'agressif, d'ailleurs, comme tous les animaux sur cette planète. Et j'en ai eu la preuve de cette conviction, c'est que plusieurs fois, je me suis levé de mon hamac le matin. Et non loin de mon hamac, qu'est-ce que je vois? Des traces de jaguar. Au moins 3-4 fois, j'ai vu ça, des traces de jaguar. Donc, il était passé pendant la nuit, parce que c'est un félin qui vit la nuit. Il m'avait vu, moi je dormais, et il m'a foutu la paix. Donc pour moi, c'est la preuve que le jaguar n'est pas du tout quelque chose d'agressif. Et puis je suis en relation aussi avec d'autres amis qui travaillent beaucoup en Guyane et qui ont eu des expériences avec le jaguar assez folles, et ils sont toujours en vie. Et c'est comme tous les animaux, je vais dire. C'est pas des ennemis ni des bêtes sauvages comme on pourrait le percevoir ou comme Hollywood nous le fait croire dans certains films de science-fiction. Pour moi, il y a des énergies, les animaux sentent les énergies de la personne.
C'est un petit peu comme avec les hommes tout à l'heure. Si on arrive avec une énergie pacifique ou pacificatrice, ça fonctionne. L'autre peut le sentir.
Ah oui, moi je pense vraiment. J'ai eu quelqu'un face à face avec des animaux sauvages qui m'ont aussi prouvé cela. Voilà, le positionnement évidemment entre une mère et son petit, ça reste toujours délicat. Donc ça aussi, mais même dans ces situations, il y a moyen d'en sortir vivant selon comment on opère, quoi. Évidemment, on recense beaucoup d'attaques de jaguars dans les mines d'orpailleurs au Brésil et en Guyane. Mais pourquoi? Parce que le jaguar, il sent qu'on vient détruire son territoire, quoi. Oui, il y a une logique à tout. Les animaux ressentent beaucoup de choses, ont des émotions comme les êtres humains et une capacité à sentir, d'ailleurs peut-être supérieure à la nôtre dans certains aspects, hein.
Est-ce que, Julien de Fourny, on peut revenir un tout petit peu sur ces peuples, hein, ce peuple, les Chouars, hein. Comment vivent-ils, où sont-ils basés exactement? Parce qu'en fait, vous l'avez dit, mais avec des noms que moi, je n'ai pas compris personnellement, que je ne situe pas. Quelles sont leurs coutumes?
Donc les Chouars, ils vivent en Équateur, à la frontière du Pérou, plus précisément dans la cordillère du Condor. Alors, il y a 5 ans, quand je les ai rencontrés, il fallait aller en avionnette pour atteindre le village. Aujourd'hui, il y a une route qui a été construite et qui traverse le village. Ceci était l'œuvre de l'industrie minière, évidemment. Donc, moi, auparavant, quand je les ai rencontrés, c'était un village qui était encore beaucoup sur ses valeurs ancestrales, qui vivait pleinement de la nature. Aujourd'hui, c'est toujours le cas avec des artifices de la société moderne. Et alors, quand j'ai vu ça pour cette année, j'ai été un peu attristé. Et à la fois, c'était aussi le moment d'être là pour les reconnecter à ce qu'ils étaient vraiment avant la mine. Encore une fois, quand je vous disais que l'homme a tendance à se focaliser sur le négatif et à oublier ce qu'il peut faire à côté, eh ben, ils ont subi le même sort. C'est-à-dire que la mine était tellement envahissante dans leur esprit qu'ils n'ont plus pensé à faire l'école ancestrale et tout ça. Et notre venue a fait qu'ils ont relancé tout ça, quoi. Et c'est juste magique. J'ai des nouvelles parce que maintenant ils ont le téléphone, donc ils m'envoient des messages et tout se met en place. Et au final, cette année où je suis resté 3 mois, je n'ai jamais vu ce peuple aussi profondément dans leur spiritualité. Et leur spiritualité, c'est quoi? C'est la nature, en fait. Et ce peuple, depuis toujours, ce que j'ai compris, se connecte via les plantes. Alors nous, ces plantes, il y a longtemps, on a appelé ça des drogues parce qu'elles nous amènent dans un état de conscience différent de la conscience normale. Mais il faut savoir que le chamanisme, ça existe depuis des millénaires en Amazonie, que c'est une réelle médecine, que des scientifiques commencent à s'y intéresser. Et je peux en témoigner parce que j'ai suivi la trace de plusieurs chamans, j'ai moi-même vécu ces rites, qui sont des rites pour eux importants pour passer de l'âge jeune à l'âge adulte. Et d'ailleurs, ils ont un chant qu'ils chantent souvent durant les fêtes, et ce chant témoigne de cette connexion aux plantes. Et pour eux, en fait, toute la sagesse et toute la structure de la société chouar a été vue à travers les plantes. Et en fait, en quoi ça consiste? C'est une introspection sur l'individu, à savoir vraiment qui il est, quelle est sa place dans la communauté et dans ce monde. Et c'est pour ça que je trouve ces peuples relativement sages, d'ailleurs, dans la manière de témoigner et dans plein de choses. C'est grâce à ce pouvoir des plantes, et ils me le disent, qu'ils ont cette sagesse et ce calme, en fait, en eux.
Comment ça, grâce à ce pouvoir des plantes? Du coup, je ne saisis pas bien, en fait.
Oui, c'est compliqué de relater ces histoires avec les plantes, mais ça nous plonge dans un état de conscience qui permet de voir des choses qu'on ne voit pas dans notre conscient. Déjà, d'aller chercher peut-être des blessures qui nous permettent d'être vraiment libres et qui on est. Et à chaque fois qu'on consomme une de ces plantes dans un rite évidemment chamanique, ça nous replonge à notre essence même en tant qu'être humain. C'est-à-dire que si pour le moment tu fais un boulot qui ne te convient pas, que tu n'es pas bien dans ta vie et que tu vas aller passer un rite avec les chouars, il est très probable que beaucoup de choses changent après parce que ça va te replonger dans ton essence même de qui tu es. Et sans toute la construction mentale de te dire oui, mais il me faut ci, il me faut ça. Non, ça s'arrête et ça va voir qui tu es. Et donc, ça, en fait, c'est une dilution.
Qui on est profondément.
Voilà, profondément. C'est une dilution de l'ego pour moi. Et donc, on apprend à ne plus avoir cet ego qui nous traîne durant toute notre vie, presque, surtout en Occident, qui nous dit il faut que je sois reconnu, blablabla. Et c'est ça que n'ont pas ces peuples-là. Ils n'ont pas ce besoin de reconnaissance ni de. Ils ont un besoin d'appartenance, mais pas un besoin de reconnaissance. Et du coup, c'est des hommes libres. Je disais, c'est la plus belle chose de voir chez eux. En fait, c'est le regard de l'enfant, toujours. Ils ont beaucoup ce regard de l'enfant sur plein de choses et il n'y a rien qui les contrarie, quoi. Et je leur disais, d'ailleurs, c'est difficile là, de s'embrouiller avec vous. On apprend beaucoup.
Ouais, c'est une belle leçon de vie. Julien de Fourny, pour poursuivre un petit peu cette voie des Amériques hein, que vous nous présentez, on peut peut-être s'arrêter un petit peu sur les Mayas.
Oui, donc Maya, déjà, c'est une appellation que les Occidentaux ont donnée aux peuples qui vivaient entre le Guatemala et le Mexique. Donc Maya, c'est pas vraiment quelque chose de vrai, je dirais plutôt que c'est... Voilà, ceux qui donnent la parole dans mon film, il y a les Tzeltal, les Tzoltil et les Lacandon.
Ouais, bah avouez que Maya, c'est beaucoup plus facile à dire.
Oui, c'est ça, voilà, pour résumer. Et je sais plus ce que vous vouliez savoir exactement.
Oui, pardon, mais c'est cette rencontre avec notamment cette personne, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui parle du lien qu'on a avec les étoiles, par exemple.
Oui, donc c'est Marceau. Marceau, il a été en fait élevé par Lacandon très jeune. Et dans la région où il vit, au Mexique, il a appelé Tatar Abuelo. Donc Tatar Abuelo, c'est des gens... Abuelo, en espagnol, c'est grand-père, ouais, c'est ça, ancien. Et c'est des gens qui ont une certaine sagesse et qui sont souvent dans des projets pour le peuple. Donc c'est des sages, des chamans, on peut dire. Donc voilà. Et lui, donc, il parle évidemment de la connexion de l'homme aux astres et des astres à la terre. En fait, tout est lié, tout est un. Ben, il dit clairement que le monde court déjà trop, en fait, dans un cercle frénétique, sans savoir vraiment la raison de cette course. Et ça, je suis assez d'accord avec lui. Et que si on continue dans cette destruction de la nature, ça veut dire qu'on n'est pas en amour avec nous-mêmes. Et c'est vrai parce qu'au final, nous sommes nature, nous sommes partie de ça. Et je pense que notre monde s'est tellement coupé de cette nature via l'industrialisation et tout ça, qu'on ne réalise même plus qu'on fait partie de cette nature, et encore moins, par exemple, ce qu'on doit manger sur cette planète. On n'a plus ces notions de savoir ce qui est bon ou pas pour nous, notre physiologie, pourquoi elle est faite en tant qu'être humain sur Terre. On a été coupé de ça et je pense que notre génération et donc les parents aussi qui ont mis au monde cette génération prennent conscience de ces choses petit à petit. Maintenant, c'est encore lent par rapport au niveau où ça pourrait être, hein, je pense, mais les choses se font progressivement. Et ce que dit aussi cette personne, c'est qu'une société qui est plongée dans l'ego, c'est-à-dire du moi en tant qu'individu sans prendre au compte les autres, donc ça veut dire un monde égoïste et individuel, ne peut pas aller dans un sens harmonieux parce que la nature, c'est l'harmonie. Si on prend bêtement l'agriculture, c'est la même chose. Si on sème un individu, donc c'est-à-dire du maïs, qu'est-ce qu'il va avoir au fur et à mesure des années, des certifications et tout? La nature, il n'y a rien dans la nature qui est monogame. Tout est divers, diversifié. Et c'est-à-dire que si on vit comme individu seul, ça ne peut pas marcher. Il nous faut une diversité, il nous faut être connecté aux autres. Il faut une diversité d'aliments pour bien nourrir notre corps. Il faut une diversité dans les forêts pour qu'elles soient en bonne santé et dans nos champs aussi. Donc tout est lié. Et si on voit l'univers, il n'y a rien qui est uniforme. Ce n'est que la tête de l'homme qui fait des choses uniformes. C'est ça, pas monogame, c'est uniforme que je voulais dire.
Et effectivement, ça pour vous, c'est un vecteur hein, très important de réconciliation peut-être de l'homme avec la Terre et puis à la fin du rééquilibrage nécessaire à la Terre.
Oui, et pour que la Terre se rééquilibre, il faut passer Pour moi, c'est des quêtes spirituelles et je ne lis pas ça du tout à l'église ou à quoi que ce soit. C'est une introspection intérieure. Et notre peuple a été coupé de ça. Et pourtant, les Celtes le faisaient il y a 400 ans, en arrivant encore à ça. Tant qu'on n'arrivera pas à ne plus vivre à travers notre ego, il n'y a rien qui va être résolu, quoi, en fait.
C'est vrai que quand on y pense, effectivement, là, en Occident, on meurt de trop manger.
Ouais.
C'est un paradoxe, alors qu'en fait, on sait comment bien manger.
D'ailleurs, dans le monde, je pense qu'on est la société qui a le plus de chances de pouvoir sélectionner ses aliments et bien manger s'il le veut, quoi. Mais par contre, il n'y a pas la formation nécessaire qui va derrière.
La formation, si on veut l'avoir, on l'a en fait.
C'est ça. Pour moi, ça devrait être enseigné dans les classes. Même si on prend les études de médecine, et je suis bien placé pour le dire, parce que ma copine est médecin, il n'y a pas un seul cours sur l'alimentation. Et pourtant, le serment d'Hippocrate, c'est quoi ? Ben, ça parle que de ça. Il y a un truc, en fait, plus on s'informe, plus on voit que la société avance, mais à côté de la plaque et dans tous les domaines. Plus on est informé, plus on se rend compte que, ah ouais, mais on va à contre-sens, quoi. Donc, ce qu'il faut retrouver, c'est du bon sens et c'est au niveau de tout. Il y a vraiment de tout. C'est dans chaque milieu, on va à contre-sens presque. Alors, il y a aussi du positif, hein, mais pour moi aussi, vouloir expliquer tout via la science, ça devient une religion aussi qui est dangereuse. Parce que la voie de la sagesse, il y a des écrits depuis 5 à 10 000 ans, voire plus. Et on n'écoute plus ces gens. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tout intérêt à écouter les deux mondes. Donc que la science aille voir ces choses. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont une ouverture d'esprit qui, heureusement, ils vont voir ça. Mais il faut qu'on arrête de rester dans le rationnel et dans tout ce qu'on croit, la vérité. Parce que plus on rentre dans ce milieu, même... de défaire de son...
Matérialiste, en fait.
Ouais, et donc, plus on s'écarte de nos croyances, plus on se rend compte qu'on connaît rien, en fait. Rien du tout.
Et quand vous parlez de cette transmission, Julien Dufourny, je me dis, ça me fait un petit peu penser justement au Chouart, hein, et en fait à tous ces peuples dits primitifs qui se transmettent, hein, le savoir, hein, de génération en génération.
Oui, c'est ça.
On a perdu ça.
Tous disent le même message, hein, qu'on soit en Amazonie, qu'on soit chez les bouddhistes, qu'on soit même dans les messages de Jésus, allons-y. Tous disent la même chose. Le chaman Amblo, il disait la même chose aussi. Et c'est à quoi, en fait ? C'est voué à l'amour, c'est tout. Et c'est juste ça, voilà. C'est la conclusion du tout.
Voilà. Et alors, j'ai quand même envie de reparler, ça pourrait être une conclusion, mais j'ai quand même deux choses que je voudrais vous demander encore. Dans votre film, on voit, quand vous arrivez au mur, hein, à Tirana,
Tirana,
ce mur qui est là pour séparer, pour diviser, et qui pourtant n'est pas que là comme diviseur.
Non, encore une fois, c'est comme au Venezuela, je vais dire que dans les pires difficultés, on voit aussi la plus grande humanité. Et ça, c'est très propre à l'homme. Je le disais tantôt, tout à l'heure, pardon, c'est belge tantôt. Quand il y a eu des inondations en Belgique, on voyait les gens se bouger et il y avait un grand mouvement humanitaire. Et au mur, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui aimeraient passer de l'autre côté pour espérer une meilleure vie, j'en doute. Mais c'est tellement des problématiques, des fois très dures là-bas, que c'est le seul espoir qu'ils ont. Et pourtant, ils galèrent à passer de l'autre côté. Et ce qu'a décidé de faire un peintre local, c'était de peindre avec les migrants des messages positifs sur ce mur. Donc, si on va à Tijuana, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, en effet, le mur est décoré de fresques et tout ça. Et aujourd'hui, mon vélo est sur le mur avec ce texte, hein, donc, que je disais, un mur ne peut pas détenir les rêves. Et à la fois, c'est vrai. Et pour certaines personnes qui veulent être dans la légalité, c'est plus compliqué. Alors moi, ce que j'avais fait au mur, je m'étais beaucoup intéressé aux migrants. Et puis, j'ai été allé travailler avec un père qui avait un centre là-bas qui donnait à manger et de quoi dormir à ces migrants. Et j'ai recueilli des histoires comme ça, mais je pensais écrire dessus. Il y en a qui sont tellement atroces que j'ai décidé de jamais écrire dessus. Tellement c'était dur, quoi. Et j'ai même fait des photos et je les ai gardées pour moi parce que ça, je pouvais pas publier ça, quoi. Donc il y a des vies, on se demande pourquoi elles doivent passer par tout ça, mais c'est pas ça, quoi. Et d'un côté, il y a aussi cette union. Je me souviens, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Juan. Et il avait été élevé dans les gangs violents de Los Angeles. Il avait tout fait toute sa vie aux États-Unis. Il avait été en prison et tout ça, parce que tu passes toujours par la case prison quand tu es dans des gangs, ou alors la mort, hein, ça pouvait être aussi. Et puis il était poursuivi avec sa famille, il a dû fuir Los Angeles. Il a reconstruit sa vie et un jour il a eu un accident avec un Américain là-bas en voiture. rien de grave, il n'était même pas alcoolisé. Et tout simplement par le fait qu'il n'avait pas des papiers légaux aux États-Unis, mais qu'il était né là-bas, et en plus qu'il avait fait l'armée quand même, ils l'ont viré du pays. Donc il s'est retrouvé à la frontière, il n'était pas mexicain, alors ni américain, donc c'est comme s'il n'était plus rien. Et c'est là où il a réalisé qu'avant il avait une vie égoïste, et là, Juan, c'était un mec dédié aux autres, à tous les migrants, il n'avait pas un rond sur son compte, il n'avait plus d'argent. Et il a dit, je me suis découvert à travers le mur, quoi. Donc, il y a aussi, je pense que des fois, l'humain doit prendre des bonnes claques pour se réveiller, des fois, malheureusement. Et on pourrait le faire avec plus de conscience, mais souvent, et dans toute l'histoire de l'humanité, on voit que c'est les grands chocs qui ont réveillé l'humain.
Alors, c'est beau, donc là, ce sera peut-être effectivement la conclusion. On ne parlera pas de votre périple à vélo. Pourtant, quand on vous voit transpirer quand même, on imagine quand vous êtes à la fois dans le désert, sur les rochers ou dans la neige. Hein, voilà, ça mérite aussi d'être vu. Sinon, juste un dernier mot quand même. Je trouve qu'il se dégage de votre film, et c'est un petit peu ce que vous dites aussi, je pense. Il se dégage de votre film beaucoup de sérénité.
Oui. Bah, il y a de la sérénité.
Malgré tout.
Il y a de la sérénité parce qu'en fait, on cultive le positif, je pense, dans le voyage. Et du coup, on devient serein, on devient confiant aussi en soi par rapport à la vie, que tout va bien aller, en fait, et qu'il n'y a pas trop de tracas à se faire. Et ça, il faut le vivre parce que j'ai beau le raconter, je dis tant que les gens n'expérimentent pas, ils ne peuvent pas le sentir. Et je pense qu'ici, on se met beaucoup trop de pression, de stress. Et pourquoi au final? Parce que rien n'est grave ni important.
Sauf peut-être le mal ou le bien que l'on fait.
Oui, bah c'est quel sens on veut donner à sa vie, surtout qui est important, je pense, essayer de passer ce passage terrestre de la meilleure façon possible, quoi. À quoi ça sert de construire des châteaux forts et de courir pour ça, sachant qu'à la mort, on va perdre tout ça. Et tout ce qu'on va laisser, c'est ce qu'on aura enseigné à nos générations qui viennent. Et il le dit dans le film, cette personne d'ailleurs que j'ai rencontrée en France, près d'Épinal, donc des Vosges, qui dit, on est cette graine qu'on va semer et d'autres générations vont la ressemer. Quoi. Je pense que c'est ça la vie, en fait. C'est qu'est-ce que tu laisses sur terre aux autres? Parce que quand tu meurs, c'est là que les gens se souviennent de ce que tu as enseigné. Quoi. Mais si tu construis ton château fort pour te protéger et qu'on a cette image que la richesse est dans l'avoir, je pense qu'on passe à côté de la vie.
Ouais. Merci beaucoup Julien de Fourny pour cette belle réflexion qui a accompagné ce voyage que vous nous avez proposé, cette Voix des Amériques, qui était le film que vous avez présenté à l'occasion des projections Altaïr. Et puis donc, je répète, on vous retrouve aussi sur votre site internet, Julien de Fourny, avec un Y. Et puis, on peut acheter votre DVD, acheter votre livre, ouais. Et puis avoir plein
d'affaires. Le site... vous trouverez, c'est Explore Together Earth.
Merci beaucoup, Julien de Fourny.
Merci à vous.
C'était Voyage au bout du monde, une rencontre proposée par Isabelle Rupin.